Alors aujourd'hui, nous recevons Annie Roy, qui est artiste cofondatrice avec Pierre Allard de l'ATSA, l'action terroriste socialement acceptable. Bonjour Annie.
Bonjour.
C'est un grand plaisir en tout cas de vous recevoir aujourd'hui dans les studios.
C'est un grand plaisir d'être ici, de parler à Marseille en même temps.
Alors l'ATSA, c'est un organisme à but non lucratif que vous avez fondé en 98 et qui vise, comme vous le déclarez dans votre mandat, à créer dans l'espace public des œuvres et des événements transdisciplinaires, alors que ce soit sous la forme d'interventions, des installations, des performances ou des mises en scène, qui visent à interpeller la population sur des questions sociales, environnementales, patrimoniales. Donc l'ATSA, c'est de l'art engagé, c'est une démarche à la fois artistique et citoyenne. Une première question pour commencer, pourquoi avoir utilisé le terme de terroriste? Est-ce que c'est juste une question de forme ou est-ce que ça témoigne vraiment d'un positionnement particulier sur la place de l'art dans la ville et dans la cité?
Oui, je pense que l'idée, c'était vraiment d'extirper tout ce qui tient du terrorisme sauf la violence, donc d'où le socialement acceptable. Donc c'est sûr que c'était de faire des œuvres provocantes dans l'espace urbain, qui émergent un peu des fois comme ça quand on ne s'y attend pas, quand on est un badaud et on marche dans la rue et qu'est-ce que c'est ça? On ne sait pas trop quelle espèce d'objet vient de nous sauter à la figure. Et puis aussi de beaucoup jouer sur l'aspect média. Donc être fortement médiatisé par rapport à la cause. Donc là aussi, il y avait peut-être ce qui tient d'une démarche terroriste. Puis c'est sûr que la première fois qu'on a fait une œuvre, il y avait aussi, c'était dans l'illégalité, il y avait vraiment quelque chose de très urgent dans la manière dont on a stratégiquement déposé notre banque à bol, devant le Musée d'art contemporain.
Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur la création de l'ATSA et cette première performance?
Ben, cette première performance-là est venue des profits faramineux que les banques font toujours, faisaient et font toujours, versus les besoins de la pauvreté. Alors, on a pris des cuisinières, là, des poêles de cuisine, quoi, qu'on a soudées ensemble et puis on a fait une espèce de guichet automatique, mais de bochot pour les sans-abri, les SDF. Fait que c'est ça. Donc, les portes de poêles s'ouvraient comme dépôt-retrait, mais de bas pour mettre dans les souliers. Là. Alors, c'est ça. Puis on a déposé cette espèce de structure-là illégalement devant le Musée d'art contemporain. Donc, pendant qu'eux avaient un vernissage super chic à l'intérieur, nous, dehors, on servait de la soupe aux SDF, puis on avait cette sculpture, en fait, interactive. Alors ça a été la première œuvre. Puis l'année suivante, c'était le 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, et là, on a monté un camp de réfugiés effectifs en plein centre-ville riche de Montréal, avec les forces armées canadiennes en plus. Alors ça faisait vraiment comme les gens, les artistes, ils s'appellent terroristes, puis ils font des trucs avec l'armée. Tu sais, tout le monde était un peu confondu. Mais effectivement, l'idée, c'était ça. Nous, c'était un peu de détourner le sens de l'armée, tu sais, puis de vraiment aller déposer au centre de tout ça une espèce de grosse sculpture, là aussi, de banque à bas, mais qui était un peu la tour Ville-Marie, qui est le siège social des finances chez nous à Montréal. Donc, on avait des images, des juxtapositions comme ça d'images dans la ville qui nécessairement font réfléchir à tout ce qu'on met dans l'armement versus à contrer la pauvreté. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est un peu un plateau de cinéma, en fait, hein, ce qu'on fait. On arrive là, on fait une mise en scène ou est-ce que finalement la population devient l'actrice de l'événement, y participe et en y participant finalement fait vivre l'œuvre et puis dit des choses qui nous semblent importantes sur ce qui mène le monde actuellement.
Donc la création de l'ATSA, ça part d'un constat. Quelles sont les influences aussi artistiques qui ont pu vous amener à cette démarche de création dans l'espace urbain? Moi, je pense notamment aux situationnistes peut-être.
Oui, ben je suis pas bien bonne là-dedans malheureusement. Je laisse vraiment aux autres le soin de faire des parallèles, là, parce que nous, on est vraiment super occupés dans nos affaires. Et puis, effectivement, par contre, c'est vrai que les situationnistes, on nous branche souvent avec ça. Il y a quand même aussi plusieurs démarches de théâtre de rue, mais en même temps, c'est connexe à l'art visuel. Je sais pas trop. Je pense qu'on est une espèce de bébite quand même assez particulière, interdisciplinaire, avec des codes esthétiques très clairs, mais aussi des modes de production proches des activistes ou du militantisme sans tout à fait être ça non plus, tu sais. Donc, je sais pas des fois, moi, même moi, comment nous définir.
Ça, parce que là, ça, c'est quand même de l'art engagé, c'est un activisme, on peut même parler peut-être d'artivisme, je ne sais pas si...
Ouais, c'est bon ça.
Mais à partir de quel moment ensuite on n'a pas forcément envie de tomber vraiment dans le politique? Est-ce que vous n'avez pas envie, après toutes vos actions vraiment dans l'espace urbain qui sont très politiques, de vraiment faire de la politique?
Ouais, c'est ça. Des fois, il y a un côté frustrant à ça, tu sais, de ne pas justement mener encore plus loin, tu sais, parce que c'est sûr, quand tu fais de l'art, à quelque part, c'est de l'événementiel, puis c'est quelque chose de ponctuel dans le temps, qui a mis un éclairage particulier sur quelque chose, et puis qui a fait une sorte de feu d'artifice. Puis après ça, bon, tu t'en vas, puis là, tu te dis, ben OK, comment on peut faire le suivi des dossiers, tout ça, mais on est en lien avec des groupes qui, eux, le font. Donc, à quelque part, tu sais, souvent, mais, par exemple, à cause des sans-abri, ici, il y a le RAPSIM, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. À chaque année où on faisait un camp de réfugiés, je dis faisait parce que c'est fort probable que la dernière édition était la dernière édition, on demande, bon, c'est quoi les gros dossiers chauds pour eux, et puis nos thématiques sont souvent faites autour de tout ça, tout en restant des artistes, c'est-à-dire en ayant vraiment une distance selon les choses. Je pense pas que tu peux rester un artiste quand tu es tellement porte-parole d'une cause, finalement, là, tu sais, qu'on te met les mots dans la bouche et puis que t'as plus cette espèce d'indépendance nécessaire à regarder le monde de loin puis à vraiment reconstruire une réalité, la transposer. Fait qu'on garde aussi cette liberté-là. C'est pour ça qu'on sait pas où nous classer. Parce que nous, on aime les choses multicouches, multiniveaux, qui ont à la fois une répercussion dans le concret maintenant, mais qui a aussi une espèce de répercussion, de réverbération dans le global, dans l'imaginaire, dans ce qui n'est pas du tout de la cause si concrète que ça non plus.
Donc parmi les réalisations de l'ATSA, il y a l'état d'urgence dont vous parliez, mm-hmm. il y a ici Attention zone épineuse, mm-hmm. une intervention que vous avez fait à Mont-Royal sur la précarité des patrimoines écologiques, mm-hmm. il y a Squat Polaire aussi, moi, ouais. qui j'avais beaucoup apprécié, c'est une intervention éducative ouais. sur les changements climatiques, et vous revenez d'ailleurs tout juste de Vancouver, ouais. vous aviez proposé quelque chose, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait
oui,
là-bas?
Oui, c'est ça, ben là tu vois, t'as justement mis le doigt sur le fait qu'on ne fait pas que des causes sociales, donc beaucoup de trucs environnementaux, attentats aussi, serait pas mal apprécié de vos auditeurs, j'en suis sûre. Vous irez voir sur notre site internet là, atsa.qc.ca, dans toutes les réalisations. Mais Pigeon Club qu'on a fait. Alors là, ça vient d'une résidence de 5 semaines en 2009 à Vancouver, dans le quartier le plus pauvre du Canada, le Downtown Eastside. Tout le monde est sur l'amphétamine. Là. C'est vraiment comme un genre de bulle épeurante, là, je dirais, de quadrilatère très, très étrange. Et puis, on a fait un club med en plein dans le temps Eastside, finalement. Alors, fausse piscine, chaises longues, karaoké, tout ça, un peu la petite vacance dans un lieu totalement improbable pour que cela arrive. Mais c'est vraiment un regard sur le tourisme aussi, sur tout le post-olympique de la ville et sur le fait que qui convient ou non à la carte postale, finalement. C'est la question que l'on pose là et ça a été super apprécié, là, genre revient encore toute émue, en fait, avec vraiment des super belles images. Il y a même une fille qui m'a dit que ça a fait sa fin de semaine, qu'elle avait plus besoin de crack pendant qu'on était là. C'était pas mal.
C'est dommage, on a un petit peu pris par le temps.
Oui,
puis
je
j'invite vraiment les auditeurs à aller faire un tour sur le site de l'ATSA, atsa.qc.ca. Une dernière question, quels sont vos projets futurs? Vous êtes intervenu au Canada, vous parliez de la résidence à Vancouver.
Ben, on attend une invitation pour Marseille, là.
Ah, ben c'est... On espère vous voir à Marseille, en tout cas, très prochainement.
Non, ben, donc bouger, oui, c'est sûr, aller visiter d'autres urbanités, d'autres gens, ça serait super.
Ben, merci beaucoup, Annie Roy, d'être venue dans les studios pour cette entrevue rediffusée à Montréal et à Marseille. Et je vous souhaite une bonne continuation.
Allez, merci à toi de l'invitation.
Donc, je vais vous laisser en compagnie de Monsieur Cerise et de Lucie sur les ondes de Radio Grenouille. Et je rends l'antenne à Olivier pour la fin de votre magazine du mercredi. On se retrouve demain à la même heure pour ces entrevues en duplex entre Montréal et Marseille. Merci.